30 minutes chrono, l'émission sportive du samedi sur Divergence FM en 30 minutes chrono. Alors cette émission sportive hebdomadaire a trouvé son nom. Ce sera donc 30 minutes chrono. Pendant cette demi-heure, nous irons visiter le sport. Désolé, pas encore d'invité pour cette deuxième manche, mais le temps de la mise en place va se terminer et je recevrai bien sûr des acteurs de la vie sportive de notre agglomération le plus tôt possible. Je profite donc de ces premières émissions pour faire un survol plus général en votre compagnie, un survol du sport. Chronique de la Babale Carré. Alors avant de commencer la chronique, je remercie le quotidien L'Équipe pour un certain nombre d'informations contenues dans ces émissions. Cette semaine, mettons encore les pieds dans les tas de billets de banque qui entourent le sport. La semaine passée, nous avions visité les délires du mercato. Penchons-nous un peu sur les diffuseurs. Il faut avant tout comprendre que les ligues professionnelles sont de plus en plus inféodées aux gros chèques que leur versent les diffuseurs après les appels d'offres, où seuls les gros peuvent proposer des sommes vertigineuses. Pour le sport roi, enfin roi de ce côté-ci de l'Atlantique et au sud des Amériques, le football, c'est caricatural. Mais le rugby prend de plus en plus le même chemin où les droits télévisuels deviennent la principale ressource des clubs professionnels. Surtout, ces droits font la fortune des organisateurs. La Ligue de football professionnel vit beaucoup par et pour ces montagnes de fric issues de l'audiovisuel. Orange, ainsi, verse 25 millions d'euros annuels uniquement pour les droits des mobiles. Mais cela reste des clopinettes. Entre Canal+ et beIN Sports, c'est 600 millions d'euros dont il s'agit annuellement. Devant les sommes investies, il faut bien qu'il y ait un retour sur investissement. Quoique dans cette économie-là, on est encore un peu comme dans les transferts. L'essentiel est d'être vu et reconnu, même parfois à perte, pour faire son image de diffuseur sportif numéro 1. Jusqu'ici, tout allait bien. Canal+ avait la main sur la Ligue Pro et n'était que vaguement gêné parfois par M6 ou TF1. Mais pas pour le championnat de France ou les grands championnats européens. Or, est arrivé dans le paf les Qatariens et leur montagne d'argent. En plus de s'offrir leur danseuse parisienne, ils ont créé beIN Sports. Comme ces gens du Moyen-Orient ne font pas dans la demi-mesure, surtout depuis qu'ils se sont, à la surprise générale, vu attribuer la Coupe du Monde de football 2022, ils veulent tout gagner et ne sont pas pressés pour le retour sur leurs investissements. Donc, ils ont renié progressivement les prérogatives de Canal+. Mais là, ils payaient cher. Mais comme ces gens sont très bien conseillés, ils ont trouvé un nouveau moyen de faire une vraie concurrence à l'ennemi ciblé, et ce, pour pas un centime de plus à verser à la Ligue de football. Tous les dimanches, à partir de 19h, en clair, en direct et en public, le Canal Football Club est une vitrine de la chaîne pour vendre le match qui est retransmis en crypté après l'émission. Mais plus généralement, le Canal Football Club est là pour attirer les nouveaux abonnés, pour qu'ils voient l'esprit Canal, comme le Grand Journal le fait de même dans la semaine. Or, vient de sortir le Club du dimanche, pile poil, à la même heure et le même jour, sur beIN Sport. Et bien sûr, en clair, en direct et en public aussi. La guerre des diffuseurs est bien lancée, avec un arbitre plutôt gêné, la Ligue, qui n'arrête pas de se faire engueuler et menacer de représailles financières. Pourtant, il semblerait que nos amis qatariens n'ont rien laissé au hasard et qu'ils sont inattaquables juridiquement parlant. Politique, on fera avec. C'est comme on va climatiser les stades en 2022 pour que les acteurs ne meurent pas de chaud au Qatar.
Le lancer du CD. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound. It's all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the tin collar cap and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, 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 money.
Alors, vous avez probablement reconnu Liza Minnelli, c'est la musique du film Cabaret. Et Money, Money, Money makes the world going on. On en parlait déjà avec les diffuseurs de télévision et on va aborder notre dossier donc, de cette semaine. Et on va parler du CIO, le Comité International Olympique. La première musique que vous avez entendue, c'était Evangelis et des chariots de feu. Ben justement, c'était cette musique qui avait été choisie pour les Jeux Olympiques de Londres, vous en souvenez-vous. Alors, on reste dans le monde de l'argent et surtout dans le monde du pouvoir. Revenons sur l'élection du nouveau chef d'orchestre, comme il se définit lui-même d'ailleurs, Thomas Bach, en allemand, Thomas Bach en français. Mais avant, c'est quoi et ça sert à quoi le CIO ? Alors, selon le site officiel de cet organisme, situé dans la très feutrée ville suisse de Lausanne, le Comité international olympique est l'autorité suprême du mouvement olympique. Agissant comme un catalyseur de collaboration entre tous les membres de la famille olympique, les comités nationaux, olympiques, les fédérations internationales, les athlètes, les comités d'organisation des Jeux olympiques, les partenaires, etc., les diffuseurs, les agences des Nations unies. Le Comité international olympique, CIO, cultive le succès à travers une série de programmes et de projets qui donnent vie aux valeurs olympiques. Sur cette base, le CIO assure l'organisation régulière des Jeux olympiques, soutient toutes les organisations membres affiliées au mouvement olympique et encourage fortement, par des moyens appropriés, la promotion des valeurs olympiques. C'est beau. Selon la charte olympique, le rôle du CIO est, je vous cite quelques-unes des fonctions parmi une litanie de bonnes résolutions. Alors par exemple, il faut encourager et soutenir la promotion de l'éthique dans le sport, ainsi que l'éducation de la jeunesse par le sport, et de s'attaquer à ce que l'esprit de fair play règne dans le sport et que la violence en soit bannie. Il y a du boulot. Ensuite, il faut assurer la célébration régulière des Jeux olympiques, sorte de grande messe qui ont lieu, comme vous le savez, tous les 4 ans, avec maintenant un décalage entre Jeux d'hiver et Jeux d'été. Donc c'est tous les 2 ans, il y a quelque chose en fait. Le Comité international olympique veut coopérer avec les organismes et les autorités publiques ou privées compétentes afin de mettre le sport au service de l'humanité et de promouvoir ainsi la paix. Il faut aussi encourager et soutenir la promotion des femmes dans ce sport, dans les sports, et à tous les niveaux et de toutes les structures, dans le but de mettre en œuvre le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et enfin, il faut aussi se diriger la lutte contre le dopage dans le sport. Et il faut surtout s'opposer à toute utilisation politique ou commerciale du sport et des athlètes. Bon, c'est formidable, vous ne trouvez pas ? Mais peut-être un peu trop beau pour être vraiment vrai. Ainsi, le choix écologique de Tokyo en 2020 pourrait laisser rêveur. On pourrait répondre Fukushima ? Le journal Le Monde, sous la plume de Pierre Lépidi, nous lève un peu le voile sur un article intitulé « Thomas Bach, un homme d'affaires à la tête du CIO ». Alors, je vais donner quelques extraits. Alors, les 93 membres du CIO ont élu un ancien champion olympique d'escrime. Ah oui, les membres du CIO sont cooptés par eux-mêmes, en fait. Donc, c'est un cercle très fermé, mais très influent. Vous vous rendez compte, la puissance qu'ils ont, ils décident qui va organiser les Jeux olympiques, c'est pas rien. Donc là, Tokyo en 2020, comme vous savez, Rio en 2016. Alors, c'est un ancien champion olympique d'escrime, le nouveau président. Il a été sacré au fleuret par équipe aux Jeux de Montréal en 1976. Alors donc, les membres du CIO ont désigné un homme qui fréquente depuis plus de 20 ans la maison olympique, au point d'en connaître les moindres recoins, les chausse-trappes, les passages secrets, pourrait-on dire. Sous son air rassurant de professeur d'économie se cache en fait un polyglotte ambitieux, qui préparait son couronnement depuis très longtemps. Intronisé au CIO en 1911, Thomas Bach a siégé dans une douzaine de commissions aux compétences très diverses. Alors vous avez remarqué qu'il s'oriente quand même vers un côté très, très moderne, on va dire. Il s'occupait de la presse, du marketing, du juridique, des droits de télévision, des nouveaux médias. C'est un homme neuf, apparemment, mais plutôt ancien quand même. À 3 reprises, 2000, 2006 et 2010, il a été élu vice-président, avant de s'emparer donc ces jours-ci du poste suprême. Cerner la personnalité du 9e président du CIO est plus complexe qu'il n'y paraît. Qui est vraiment Thomas Bach ? C'est un homme affable, toujours prévenant, de bonne humeur, assure un membre du cercle olympique. Je le croise depuis des années et à chaque fois je me dis « tiens, il doit être encore en campagne ». Je ne sais toujours pas le définir, reconnaît un journaliste allemand qui le suit depuis très longtemps. Il est difficile à comprendre. Il me vient parfois l'image d'un escrimeur qui, 30 ans après la fin de sa carrière, n'a toujours pas enlevé ni son masque, ni rangé son épée. Alors voilà, Thomas Bach est entré au CIO lorsque le comité était dirigé de manière néopotique par le marquis espagnol, vous en souvenez-vous, Juan Antonio Samaranch. Juan Antonov Samaranch, c'était la grande époque des magouilles et des pots de vin qui circulaient à flot sur les membres du comité international olympique par les villes candidates aux Jeux. Mais est-ce que tout cela a vraiment, vraiment changé? On pourrait se poser cette question. Alors par exemple, sur l'épineuse question du dopage, M. Bach se targue d'avoir mis en place une commission indépendante après la publication d'un rapport universitaire pointant un dopage d'État en Allemagne de l'Ouest. J'ai bien dit en Allemagne de l'Ouest. Rappelez-vous, on disait toujours que c'était les Allemands de l'Est qui étaient dopés dans les années 70, ce qui était tout à fait vrai. Là, c'était vraiment une organisation de dopage incroyable, rappelez-vous, des nageuses allemandes, est-allemandes. Mais donc, il semblerait qu'il y a eu un rapport universitaire qui pointe le dopage d'État en Allemagne de l'Ouest, qui n'aurait rien eu à envier à celui de l'ex-RDA. Monsieur Bach avait même envisagé une augmentation des sanctions contre les athlètes, contre les positifs. Mais, en 2006, ce même Monsieur Bach, celui qui présidait encore le comité olympique allemand jusqu'à son élection à la tête du CIO, s'était opposé à une loi antidopage dans son propre pays. Bizarre, bizarre. Voilà, et bien écoutez, on a fait un petit tour du CIO. On va se quitter sur une petite pause musicale et puis après je reviens avec une autre rubrique. Le lancer du CD. Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé. Oui, alors dans cette rubrique, il y aura aussi, en plus des résultats, quelques échéances et aussi un peu du blabla, vous savez, le blabla que disent les acteurs de la vie du sport, quelques phrases que j'ai relevées cette semaine qui peuvent être amusantes quand même, je pense. Mais avant d'attaquer cette rubrique, je voulais juste revenir une petite seconde sur le CIO, parce que je vous avais dit que c'était le 9e Thomas Bach, que vous avez reconnu son homonyme Jean-Sébastien, j'espère, hein, pour la transition. Jean-Sébastien Bach dans cette fantastique toccata. Et ben Thomas Bach, donc le 9e président, il a succédé donc d'abord à un Grec de 1894 à 1896 quand les nouveaux Jeux Olympiques ont été recréés. Ensuite, le fondateur de ces nouveaux Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, le Français, a été président du Comité Olympique International de 1896 à 1925. Ensuite, on a eu un Belge, un Suédois, un États-Unien, un Irlandais, et on arrive donc à Juan Antonio Samaranch de 1980 à 2001. Ça, c'était une très longue durée, mais là, ça a été vraiment un règne plus que sulfureux. Ensuite, on a eu un Belge, Jacques Rodge, qui vient donc de laisser sa place. Voilà, je voulais vous donner quand même ces petites informations. Et puis, on va commencer par une phrase. La meilleure candidature est surtout la plus sûre à gagner. Qui a dit ça ? C'est le prince Albert de Monaco, membre du CIO. Ah oui, le prince Albert, c'est lui qui représente Monaco depuis toujours. Il a toujours été là. Depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps il est membre du CIO, mais ça fait vraiment longtemps. Au sujet de la désignation de Tokyo comme ville hôtesse, il a dit, malgré les problèmes liés à Fukushima, le CIO a voté pour la ville qui offrait les meilleures garanties. On connaît le sérieux des Japonais. Ah oui, il a bien raison. Alors, on va revenir maintenant à quelques résultats, quelques phrases, quelques échéances pour nos acteurs de la vie sportive. Alors, je voulais faire un petit rectificatif aussi avant de commencer. La semaine dernière, je vous avais dit que nos pauvres handballeurs avaient eu des gros problèmes, avaient des contrats non homologués. Vous vous souvenez peut-être si vous m'avez écouté, enfin, ça vous avez dit de la presse. Alors tout ça pour ça, parce que en fait, après analyse des nouveaux éléments produits par le club de Montpellier, la commission de la fédération de handball a finalement autorisé la masse salariale à la hauteur proposée par le MAHB, 3 millions d'euros à peu près. Et donc les contrats de Diego Simonet, de Wissem Ham, d'Arnaud Siffer et d'Antoine Gutfreund sont homologués. Et donc ils pourraient jouer. Ils pourraient jouer avec l'équipe de Montpellier. Donc, ça a été un peu comme un coup d'épée dans l'eau. C'était encore pour nous faire parler de notre MAHB qui aurait plutôt besoin d'avoir des publicités sur le plan sportif que sur le plan juridique. Alors, si c'était à refaire, je ne quitterais pas Philippe Lucas. Je regrette de l'avoir quitté. Pour moi, c'est le meilleur. Avec lui, j'aurais été plusieurs fois championne olympique. Ça, c'est une phrase de Laure Manoudou. Vous vous souvenez, notre Laure Manoudou et ses histoires tragicomiques avec son entraîneur. Après, elle est retraitée, mais maintenant, elle regrette son entraîneur. Voilà, c'est comme ça. À Montpellier, nous avons une équipe de hockey sur glace. C'est une équipe de hockey sur glace qui est de plus en plus performante. Et ils organisent une journée porte ouverte. Enfin, c'est deux jours porte ouverte, mais surtout, finalement, puisque nous sommes samedi, je vous dis celle de dimanche. Donc, le dimanche 15 septembre de 11h à 17h30, pour toute séance d'essai, voilà, vous pouvez venir voir et contacter nos hockeyeurs qui s'appellent, vous savez comment ils s'appellent ? Ils s'appellent les Vipères, je crois. Et ils ont déjà commencé leur championnat par une victoire. En rugby, ça va de plus en plus fort pour notre club phare, vous savez, celui qui est dans le top 14. Et on attend donc une saison particulièrement relevée par nos rugbymen. Pour le moment, ils sont dans la tête du classement et sérieusement bien dans la tête du classement. Alors nos hockeyeurs, puisque j'en avais parlé, ont commencé très bien, puisqu'ils ont gagné leur premier match dans le championnat de Division 1. En ouverture du championnat, ils ont été à l'extérieur, ils ont battu Courbevoie 3-2. Alors, le hockey sur glace est un sport, comme vous savez, roi dans l'Amérique du Nord et surtout le Canada, enfin l'Amérique du Nord en général. En France, on a de plus en plus des hockeyeurs et Montpellier n'est pas en reste, comme dans quasiment tous les sports d'ailleurs. Alors j'ai devant moi une petite playlist de certains poncifs qui sont faits par les athlètes quand on les interview. Vous savez, c'est difficile, il faut comprendre. Moi, j'ai toujours été admiratif devant ces gens qui font un effort physique très, très fort, très crevant, quoi. Ils sont à bout du rouleau, comme on dit. Et ils sont à peine descendus de leur vélo, sortis de la pelouse ou quittés le ring, qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un micro, qui met un micro sur la bouche et dit « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était formidable ce que vous venez de faire !» Comment peut-il se faire ? Alors, voilà un peu ce qu'ils répondent des fois avec un peu d'humour involontaire. Alors, voilà ce que certains ont dit. On a eu des occasions, mais on a manqué de réalisme. Sur le calendrier, ils disent souvent « Ah, le championnat, vous savez, le championnat, il est long, il est encore très long. » Les amendes. À ce niveau, les erreurs individuelles se paient toujours cash. C'est-à-dire que quand on leur colle une amende, c'est toujours cash. On prend les matchs les uns après les autres. Ça, on l'entend très, très souvent. Les entraîneurs sont très spécialistes de ça. Vous savez, vous interviewez un entraîneur et vous lui demandez « Alors, quelle est votre stratégie, etc. Qu'est-ce que vous allez faire ?» Nous, on prend les matchs les uns après les autres. Alors aussi, quand on est fort en mathématiques, on dit toujours « L'important, ce n'est pas le contenu, mais c'est les trois points. Alors, vous comprenez qu'en prendre trois points, c'est très important. On n'insulte pas impunément le jeu, disent souvent aussi les défenseurs de nos athlètes. Alors, on n'insulte pas impunément le jeu. J'ai du mal à suivre, mais enfin bon, oui, alors en effet, il ne faut pas insulter ce jeu. Bon, ben, on a bien travaillé en bloc équipe. Alors, le bloc équipe, ça, c'est aussi un truc dans tous les sports. Hein, il n'y a pas que le football. Hein, on dit on travaille en bloc équipe. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'est un bloc équipe. Sans le public, on n'aurait sûrement pas réussi à trouver la force de revenir dans ce match. Ça, c'est beau. Ça, c'est pour les supporters. Vous savez, ces gens qui dépensent des fortunes pour suivre leurs équipes. Et puis, de temps en temps, quand on est soufflé, ben, on les regarde. Alors, il y a aussi la grande maxime habituelle. Dominer, ce n'est pas gagner. C'est-à-dire, vous pouvez passer votre temps dans le camp adverse et pour de temps en temps, on n'a pas gagné. Alors, ce soir, on a joué à 11 contre 12. Alors ça, c'est une phrase qu'on entend aussi très souvent. C'est au sujet de qui ? Eh bien, de l'arbitre, évidemment. L'arbitre qui serait considéré comme étant de l'autre camp. Alors ça, c'est pour le foot, mais ça pourrait être à 7 contre 8 si on joue au handball. Hein, c'est pareil. Quoique, oui, ils sont plusieurs en handball. Il n'y a pas qu'un arbitre. Donc à 7 contre 10, pardon. Voilà. On peut dire aussi, on a tout donné, mais on n'a rien lâché. Alors là, évidemment, c'est aussi une phrase qu'on entend souvent dans les vestiaires ou à la sortie des vestiaires quand on leur tend des micros à ces pauvres sportifs. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter encore ? Oui, il y a deux matchs amicaux qui viennent de se dérouler au volley. Au volley, les volley-ball de Montpellier, allez les voir aussi, ça nous changera un peu de sport. Changez de sport, n'allez pas voir que le foot et le rugby. Allez voir, il y a tellement de sports à Montpellier. J'ai eu l'occasion de rencontrer pendant la journée des associations un certain nombre d'acteurs. Et c'est vrai que c'est tellement varié qu'il faut savoir sortir. Alors, j'espère qu'on recevra, comme je vous disais, dans cette émission avec plaisir quelques acteurs comme le tir à l'arc, hein, vous voyez, des choses comme ça, le badminton, il y a de tout à Montpellier. On va se quitter donc pour cette deuxième émission en espérant que vous avez pris du plaisir à écouter un peu toutes mes délires sportivos, économico, délirants, allez. Chrono, l'émission sportive du samedi sur Divergence FM en 30 minutes chrono.